Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers, et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, 50 centimètres au plus, et il la ceignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté, parce que le présent était volumineux, c'était quelque chose de très important, il fallait des porteurs, vous comprenez pourquoi c'est dit, il renvoya les gens qui l'avaient apporté, c'était un tribut, un présent. Israël était assujetti au peuple de Moab. Alors, lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté, il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire ». Le roi dit « Silence !» et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Églon se leva de son siège. Par respect pour une parole de Dieu, n'est-ce pas ? Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra dans la lame après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute il se couvre les pieds, c'est-à-dire il satisfait un besoin naturel, dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Bien, voilà l'histoire de Éhud. Nous sommes évidemment dans le temps des juges, et les répétitions que nous trouvons dans le récit du livre, les récits du livre des juges, sont caractéristiques de la situation qui régnait en ce temps-là. Les répétitions, vous les connaissez, les voici, je vous les rappelle. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. On voit ça revenir constamment, hein. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de tel peuple. Puis, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Le pays fut en repos pendant X années. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà les redites de ce livre des juges qui nous montre bien cette situation, en somme, en dents de scie. Tout à coup, le peuple est bien tranquille, en repos, alors il oublie complètement l'alliance. Il oublie l'alliance, et alors Dieu les livre, c'est-à-dire leur ôte toute force, et au contraire, confère la force à quelques peuples voisins qui vient les asservir. Alors il crie, « Seigneur, nous souffrons, on nous prend nos récoltes, n'avons rien à manger », il crie, il pleure, et Dieu s'attendrit et leur suscite un libérateur. Voilà ce qui arrive bien des fois dans le cours de cette partie historique. L'alliance de Dieu était oubliée dès que le peuple jouissait d'une période de paix, et cela dura environ 4 siècles. Notez que c'est toujours ainsi quand il y a une période de paix, ou même une période bonne, une période euphorique, une période où on a la grâce de Dieu en abondance, on se sent heureux, etc., on oublie l'alliance, et on s'affaiblit, et alors on s'aperçoit après que rien ne va plus. Et il faut crier à l'Éternel, chercher à nouveau la faveur de l'Éternel. Le souffle de Dieu est un esprit de paix, mais non pas un esprit de facilité. Il sert l'esprit de fidélité et non pas les désordres de la chair. Alors voyons maintenant un peu ce personnage particulier d'Éhude. Certains commentateurs voient dans l'exploit sournois et intrépide, hardi, d'Éhude de la vaillance, de l'habileté, du courage. S'en va tout seul vers le roi, là, paf, il plante son épée dans le ventre. D'autres y trouve une ruse effrontée et criminelle. D'autres encore passent sur le moyen pour ne voir que l'amorce d'une délivrance qui va suivre tout aussitôt le meurtre du roi de Moab. Alors vous voyez que les avis sont partagés, les manières de voir cet épisode sont divers. Assurément, la Bible ne nous oblige absolument pas à regarder la prouesse d'Éhude comme un exemple de courage. Ça, je m'y refuse personnellement. Il y a peut-être eu de l'intrépidité, certes, peut-être du courage au sens guerrier du terme, mais ce n'est pas ce courage-là qui force notre admiration, bien sûr. La Bible ne nous demande pas non plus de voir cette action d'Éhude comme un scandale à condamner. Alors il faut essayer de trouver autre chose, de voir autre chose, de méditer dans un autre sens cette partie du livre des juges. Dieu consent à faire droit aux supplications de son peuple et à le délivrer. Mais comment Dieu va-t-il faire pour délivrer son peuple? D'une manière hautement surnaturelle, miraculeuse, comme par exemple à Jéricho. Or, la prise de Jéricho est restée un cas d'intervention directe de Dieu qui ne s'est pas renouvelée. Le plus souvent, nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu délivre son peuple en le dirigeant vers une action dont il assure le succès. Une action même souvent où le peuple ne subit aucune perte et où les ennemis au contraire sont décimés, mis à bas. Ici, pour délivrer Israël de Moab, Dieu suscite un libérateur, comme dans presque tous les autres cas de cette période des juges. Il suscite un libérateur, et c'est Ehud qu'il désigne comme tel. Évidemment, on peut voir dans cette action de Dieu de susciter un libérateur une évocation de ce que Dieu va faire pour le salut des hommes, bien sûr. Enfin, ça ne nous permet tout de même pas de regarder avec assez de pénétration le récit qui nous occupe. Ici donc, Dieu suscite un libérateur et c'est Ehud qu'il désigne comme tel. Cet homme est gaucher, se servait pas de la main droite, il est gaucher, ce qui va l'obliger à cacher l'épée qu'il se donne. Il se fabrique une épée de 45 cm à peu près, n'est-ce pas, pas très longue, il va l'obliger à cacher son épée du côté droit. En effet, quand on est droitier, quand en général c'est la main droite qui prévaut, alors on met l'épée du côté gauche. L'épée est en général toujours suspendue du côté gauche, et quand on a besoin de dégainer, la main droite, si elle était du côté droit, regardez, ce ne serait pas commode, n'est-ce pas ? Alors la main droite se porte sur le côté gauche, tire l'épée, n'est-ce pas ? Oh. Ça c'est un geste bien connu. Tandis que lui qui est gaucher, il met l'épée du côté droit, hein, de façon à ce que la main dont il se sert, la main gauche, fasse ce que d'ordinaire fait la main droite, se porte de l'autre côté, tire l'épée, pof, et il la plante dans le ventre du roi Aiglon. Alors, est-ce que Dieu a choisi cet homme comme libérateur parce qu'il était gaucher ? Et qu'il pouvait par conséquent mettre son épée du côté où on ne la met pas habituellement, et que son geste qu'il allait faire devant le roi pour dégainer son épée n'allait pas alerter le roi. Si en effet quelqu'un, un droitier était venu, et que le droitier fait ça, tout de suite le roi aurait bien compris son geste. Mais en faisant ça, ça n'a pas alerté le roi, c'est un geste inhabituel. Était-ce pour cela que Dieu avait choisi ? Était-ce cela qui avait guidé le choix de Dieu ? En ce cas, si c'était cela, Dieu aurait d'avance approuvé la ruse dont Ehud allait se servir. Nous ne pouvons pas dire cela. Nous ne pouvons pas, dans notre méditation, nous arrêter à une telle pensée. Dieu choisit qui il veut, il a choisi cet homme qui est gaucher, et la Bible nous dit que ça va le servir pour faire ce qu'il... Nous ne pouvons pas dire qu'il y a là une intention de Dieu qui dans le choix de cet homme. En ce temps-là, la délivrance s'opérait par la guerre, tout comme l'oppression. L'oppression... Et la délivrance, l'oppression sur le peuple d'Israël et la délivrance du peuple d'Israël faisaient le va-et-vient, et elle dépendait de l'issue des combats armés. Dans tout le livre des juges, c'est ça, dépendait de l'issue des combats armés. Si c'était une délivrance, Dieu favorisait les armes d'Israël qui l'emportaient sur son oppresseur. La guerre était donc le seul moyen. Et le courage intrépide qu'on y montrait était le seul critère de la valeur et de l'honneur. On ne pensait pas autrement à ce moment-là. Pour faire du bien au peuple, il fallait donc revenir victorieux d'une expédition guerrière qui délivre le peuple d'Israël de ses oppresseurs. Le plan de Dieu visait à changer l'état des pensées des cœurs. Il visait à se donner ou à donner à ses enfants un cœur nouveau, comme le dit Ézéchiel dans le chapitre 11, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». C'était ça le plan de Dieu, ne l'oublions pas. Changer, transformer, donner un cœur nouveau. C'est la véritable solution Et il dit, il n'y en a pas d'autres. Pour cela, il fallait que les lois et les ordonnances du Sinaï soient observées. La loi était donnée pour que le peuple puisse être transformé, que son cœur soit touché. Il voulait que son peuple soit circoncis du cœur et non pas seulement circoncis de la chair qui était là. Ça, c'était là un signe extérieur, mais il voulait la circoncision du cœur. Plusieurs prophètes l'ont proclamé, presque tous. Les sacrifices même n'avaient aucun sens, pourtant c'est bien Dieu qui les avait donnés, mais ce qu'il voulait, c'était le cœur de son peuple. Et la loi était, la loi et les ordonnances étaient là pour permettre à ce peuple de vivre. Il vivait s'il observait les clauses de l'Alliance, c'est-à-dire les lois et les ordonnances du Sinaï, et si ces ordonnances n'étaient pas observées, eh bien alors la faveur de Dieu se retirait et les peuples venaient oppresser Israël, tandis que si Israël observait les lois et les ordonnances proclamées par Moïse, c'était au contraire les peuples d'alentour qui étaient tenus en respect. Il y avait une action, voyez-vous, une action qui dépassait le peuple d'Israël lui-même, qui était surnaturel. Le peuple d'Israël avait un rayonnement. C'est bien dans tout ça que il faut bien voir, n'est-ce pas, que Dieu ne cherchait pas à moraliser un peuple. Il voulait transformer ce peuple. Il a toujours voulu cela, changer son cœur. Et quand là, dans le temps de la loi de Moïse, quand le peuple d'Israël donc observait les commandements, eh bien il était fort, non seulement il était fort, mais il rayonnait sur les peuples d'alentour et il avait la paix, il était en tranquillité. Je prends Deutéronome chapitre 4 et verset 4, chapitre 4 et verset 4, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, dit Moïse, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Au chapitre suivant, chapitre 5 du Deutéronome toujours et verset 28, nous pouvons lire chapitre 5, et verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Or, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, voilà ce que l'Éternel voulait, le cœur. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, les commandements étaient donc à observer par le cœur. Il fallait que ce fût le cœur, et non pas une obligation extérieure. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants, va, Dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné, vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, c'est une voie, c'est un chemin, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et donc, si le peuple d'Israël était resté fidèle à l'Alliance, marchant dans la voie que Dieu lui donnait, il était fort, il était heureux, et les peuples d'alentour étaient là, ébahis devant la sagesse d'Israël. Qui aurait été un témoignage magnifique. Et mieux, les peuples d'alentour, eux, ils étaient saisis de crainte. Et jamais ils se seraient avisés de s'avancer sur Israël. Israël aurait été en paix constamment. Voilà, n'est-ce pas, ce que Dieu voulait, voyez. Toutefois, Israël, comme aujourd'hui encore, comme il l'est encore aujourd'hui depuis la reconstitution de l'État d'Israël en 48, eh bien, Israël était une nation. Il faut bien se représenter qu'il était une nation. Il y a des gens qui ne comprennent pas Israël aujourd'hui et qui disent, parce que ce sont des chrétiens, alors ils disent, oui, mais alors pourquoi avoir des avions, pourquoi des armes, etc., n'est-ce pas, ils ne devraient pas, ils devraient, n'est-ce pas, ne pas avoir recours à la guerre. Mais il ne faudrait pas que Israël soit une nation. Si Israël est une nation, il est au milieu des autres nations, et en ce moment, nous savons que les autres nations jalousent Israël, non seulement ils jalousent, mais ils se donnent toutes sortes de motifs pour prétendre que le territoire de la Palestine leur appartient, et par conséquent, ils ont dans l'idée de supprimer Israël, de détruire Israël. Israël est une nation, l'Église n'est pas une nation, bien que Pierre l'appelle lui encore une nation sainte pour une certaine raison, mais nous ne formons pas une nation, nous sommes de toutes les nations, nous sommes appelés séparément, individuellement, à connaître le Christ, mais nous ne sommes pas l'Église, elle n'est pas une nation. Nous vivons dans une société qui est régie par des lois, les lois de notre nation, de la nation dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes pas une nation, mais eux sont une nation et ils sont obligés de se comporter comme d'une nation. Il faut comprendre ça. Hein. Si Israël donc avait à ce moment-là observé les lois et les commandements du Sinaï, il n'aurait pas eu besoin de faire la guerre. Mais il ne les a pas observés, il est une nation au milieu des nations et il est obligé d'entrer dans le jeu de la guerre. Il se défend par les moyens de la terre, de la terre. Dieu aime la paix, il l'a dit dans le Deutéronome, je ne veux pas recourir au passage, mais Dieu préfère la paix, bien sûr. Ainsi Dieu suscite Éhude comme libérateur, mais attention, non pas comme juge. Il n'est pas qualifié juge, il est suscité comme libérateur. Il était donc, puisque Dieu le désigne, à ce moment-là, le meilleur à pouvoir jouer ce rôle de libérateur. Il était le seul à pouvoir vraiment remplir la tâche de libérateur. S'il y en avait eu un autre, mieux, Dieu l'aurait pris, c'était celui-là. Comme nous venons de le rappeler, la libération, c'est la guerre et c'est ce que Éhud va faire. Pour un meilleur succès des armes, il commence, lui, selon son idée à lui, ce n'est pas un ordre qu'il a reçu de l'Éternel, il commence par prendre à son compte personnel l'assassinat du roi de Moab. Il est intrépide, n'est-ce pas, et il établit son plan, il profite de ce qu'il est gaucher, puis il s'en va tuer le roi de Moab. Il touche à la tête, il touche au commandement, puis aussitôt après, il saute de la trompette, il déclenche le combat, et il est vainqueur d'un peuple qui n'a plus de commandement, qui n'a plus de roi. Ce que Dieu a retenu et apprécié, c'est que les enfants d'Israël aient crié à lui. S'ils ont crié, c'est qu'ils se sont mis eux-mêmes dans une situation de souffrance, ne s'étant pas pliés à l'observation de la loi. Ils ne comprennent que la guerre, ils ne voient qu'elle, et pourtant la guerre ne résout rien définitivement. Elle résout peut-être même momentanément, mais la difficulté, mais ne résout rien au fond. Il faut tenir compte aussi de ce que le peuple de Moab conservait une hostilité endémique à l'égard d'Israël, et qu'il s'attirait donc ainsi la colère et le châtiment de Dieu. Ah, c'est un peuple, le peuple de Moab d'ailleurs, était issu de Lot, vous savez, le peuple était issu de Lot, et comme Ammon, et par conséquent déjà l'origine de ces deux peuples était abominable. Je voudrais aussi, avant d'en terminer, vous montrer quelque chose à quoi peut-être vous n'avez pas réfléchi. On ne peut pas prêter à Dieu l'approbation de la ruse et de l'assassinat que pratique Éhude. Il n'a pas un ordre précis pour faire ça. Dieu choisit un libérateur parmi le peuple, ce qu'il peut trouver comme libérateur. Mais Dieu se refuse à une action surnaturelle. Dieu peut toujours avoir recours à des actions surnaturelles. Il s'y refuse parce que le peuple n'est absolument pas digne de cela. Il n'est pas préparé à cela. Ce n'est pas possible que Dieu lui donne une telle gloire, un tel avantage, ce n'est pas possible. Le peuple n'est pas prêt pour cela. Donc Dieu veut quand même le maintenir, ce peuple, il veut le garder, il a des desseins encore, de nombreux desseins à accomplir. Alors, il n'y a pas approbation de la part de Dieu. Mais les voies surnaturelles de délivrance étant exclues pour un peuple qui est charnel et qui constamment transgresse l'alliance et fait ce qui lui plaît, la délivrance que Dieu va lui accorder reste du domaine terrestre et guerrier. Il n'y a pas autre chose. Alors Dieu ne va pas donner un plan au libérateur qu'il suscite, il va simplement lui permettre d'éloigner les oppresseurs. Et il le fera comme il sait le faire, comme il veut le faire, comme selon la mentalité, si vous voulez, qui prévaut dans l'ensemble du peuple d'Israël à ce moment-là. Et alors, pensons une chose, c'est que Dieu ne donne au peuple que les conducteurs qui correspondent à son niveau, qui correspondent à sa mentalité, à sa position, à ce qu'il est. Et nous avons un exemple fameux dans les évangiles, l'évangile de Jean, Pilate disant à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi ?» Et Jésus ne dit pas à Pilate, « Tu t'avances, hein ?» Non. Il lui dit, tu n'aurais ce pouvoir, tu l'as reçu de mon Père. Dieu, Jésus reconnaît que Pilate a reçu ce pouvoir de son Père. Tu ne l'aurais pas si mon Père ne te l'avait donné. Ainsi donc, le cruel Pilate a reçu le pouvoir de gouverner qu'il exerce, il l'a reçu de Dieu. Et généraliser cela, voyez ça un petit peu dans notre temps, par exemple, bon ben nous sommes la France, ici, nous avons Mitterrand, hein, bon, Mitterrand, qu'on en pense ce qu'on voudra, ça c'est une autre affaire, n'est-ce pas, nous avons Mitterrand, nous avons eu les socialistes, Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et Dieu a accepté, peut-être même a-t-il permis, si vous voulez, que ce soit ce Mitterrand qui soit président de la République. Il ne satisfait pas tout le monde. Il ne fait pas ce que nous voudrions. Sur le plan moral, il a laissé faire des choses qui sont abominables. Abominables. J'ai des textes. Hein? Ah, c'est sans faire de politique. J'ai des documents. Des choses, en fait, on ne fait pas sur elles une grande publicité, mais par exemple, la dépénalisation de l'homosexualité s'exerçant même sur des mineurs, c'est une chose qui a été institutionnalisée par les gouvernements de Mitterrand. Sans compter que dans le document qui vient de Paris, que j'ai dans mes dossiers, il est dit aussi que la tendance à laquelle il faudra prêter toute attention, les services devront concourir à l'établir, c'est une tendance qui veut s'opposer à l'enseignement religieux dans les familles et à y substituer à l'école et à la maison l'enseignement de l'athéisme. C'est exactement cela que j'ai dans un document qui vient de Paris et qui a un cachet officiel. Le document date de 3 ans environ. Bon, alors, ça, n'est-ce pas? Voilà. Notamment un travail. Les histoires politiques qu'on nous présente dans la presse, bon, tout ça, c'est du blablabla. Mais, en réalité, au fond des choses, voilà ce qu'on fait. Et il y a encore d'autres choses. La destruction de la famille, tout est en marche. Je ne dis pas que les gouvernements qui vont venir maintenant feront beaucoup mieux. Mais enfin, la seule philosophie que je vais retirer de ça maintenant, c'est que Dieu donne donc au peuple le monarque ou le conducteur, le gouverneur, l'homme d'État qui correspond à l'état mental, spirituel de ce peuple, à la mentalité de ce peuple. Et ça ne peut pas être autrement. Dieu ne peut pas donner à un peuple qui est de plus en plus travaillé, comme est le peuple de France, par l'humanisme anti-Dieu, par la propension au plaisir, au vice, il ne peut pas lui donner un saint. C'est pas possible. Il ne peut lui donner que quelqu'un qui correspond aux aspirations du peuple. Voilà. Comme il a donné Pilate, à ce moment-là, au peuple d'Israël, qui ne méritait pas autre chose qu'un Pilate, ou qu'un Hérode, ou que... Voilà. Enfin, il faut comprendre cela, hein. Et par conséquent, déjà, sous cette optique, nous convoyons très bien, nous ne prêtons pas à Dieu les actions, des actions de ruse, les actions criminelles, meurtrières, mensongères qui sont perpétrées par les gens que Dieu suscite comme libérateur à son peuple, il suscite quelqu'un du milieu du peuple qui ressemble au peuple, c'est tout. Quand le peuple d'Israël, après, va demander un roi, eh bien, Dieu va voir ce qu'est ce peuple, ce qu'il y a dans le cœur de son peuple, il va voir que c'est pas fameux du tout. Il cherche la gloriole et c'est tout, mais il va leur donner Saül. C'est bien lui qui a désigné Saül. Il va leur donner Saül, il ne mérite pas autre chose que ça. Et puis Saül, ben, on voit comment il devient. Mais après, Dieu va tenter une autre expérience parce que ce peuple d'Israël, il le veut à lui. Et il veut vraiment l'amener par d'autres chemins. Il va leur donner David. Ah, nous le verrons, nous avons le temps après. Voilà pour ce qui est des Hudes, je n'en dis pas plus.
J'ai eu, deuxième livre des Rois, chapitre 10, verset 20.
Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal, quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Première chose. Deuxième chose, 30 et 31 dans le même chapitre. Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Voilà. Nous dirons tout de suite de ce personnage-là ce que j'ai déjà dit d'une manière générale, c'est-à-dire que Dieu donne à un peuple le conducteur qui est en rapport avec lui, avec son état moral, spirituel. Si l'état est mauvais, il ne peut pas lui donner un conducteur meilleur que lui. Alors, il lui donne donc le conducteur qu'il peut. Ici, Dieu aurait tout simplement pu faire disparaître le royaume des 10 tribus, c'est-à-dire Israël, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, des 10 tribus, qui s'était livré à Baal, qui avait eu cette Akab abominable avec Jézabel pour monarque. Il aurait pu tout sacrifier, mais Dieu veut encore le conserver. Voilà, c'est la seule chose que nous pouvons comprendre de la pensée de Dieu. Il veut encore le conserver. Alors, il va livrer Akab et toute sa maison, puis tous les prophètes de Baal, à un homme qui ne vaut pas mieux, mais qui va au moins accomplir la volonté de Dieu en ce qu'il accomplira le jugement, son jugement sur la maison d'Akab et sur les Baals. C'est tout ce qu'il faut voir. Jéhu est un homme habile, ambitieux, sanguinaire, sans scrupules. C'est évident. Il met fin au culte de Baal par une ruse de la plus grande perfidie. Enfin, on dira, évidemment, il fallait le faire. L'Éternel le récompense, mais seulement d'avoir exécuté sa volonté à l'égard de la maison d'Akab. Maison d'Akab, vraiment, avait été abominable aux yeux de Dieu, et toute la maison d'Akab était sous le coup du jugement. Et l'exécuteur du jugement, c'est ce Jéhu. Il fallait sans doute un homme de cette trempe pour exécuter le jugement de Dieu sur un si grand nombre de personnes et dans une situation aussi compromise qu'elle l'était. Le moral du personnage, donc, n'est pas à prendre en considération, il passe au second plan. C'est un moral qui n'est pas meilleur que celui des gens qu'il tue. La leçon pour nous résulte de ce que cette histoire sanguinaire réaffirme que l'accomplissement des desseins de Dieu prime beaucoup d'autres choses. Quand Dieu désire continuer, eh bien, il y a certes ces jugements qui interviennent en cours de route, des jugements partiels. Il faut que ces jugements s'accomplissent, mais il veut encore continuer, malgré tout, avec les 10 tribus. Il n'a pas décidé de les abandonner. Dans les situations de la plus noire apostasie, le jugement de Dieu doit tomber impérativement, et ceux qui l'exécutent ne sont pas des anges. À la fin, dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a des anges qui exécutent les jugements. Mais là, ce ne sont pas des anges. Moraliser ne servirait absolument à rien dans ce milieu complexe du royaume des 10 tribus, ça ne servirait à rien de moraliser, c'est un enchevêtrement de désordre et de passion. La seule chose qui importe à Dieu, c'est de retrouver la ligne à suivre de son plan. Il veut conserver le royaume du Nord. À certaines époques, Dieu punit son peuple en se servant des peuples païens voisins, qui sont des peuples hostiles à Israël, et souvent ces peuples sont eux-mêmes ensuite châtiés. Il y a quelqu'un qui a écrit que lorsque Dieu a châtié son peuple, il brûle ensuite les verges dont il s'est servi. C'est-à-dire qu'il il punit les peuples païens qui, eux, sont venus avec leur hargne contre Israël. Dans les temps actuels, pour le temps actuel, quelle est la modeste réflexion que nous pouvons nous faire sur l'histoire de Jéhu? Eh bien, c'est tout simplement que il existe des situations où il faut trancher sans faiblesse. Ne pas le faire avec faiblesse et laxisme, parce que si on le fait avec faiblesse, on se trouve en état de péché contre Dieu. Et je veux faire allusion surtout à la situation dont parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, mettons, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. » Voyez-vous, voilà déjà quelque chose, une réflexion qui nous fait comprendre bien des choses. Le Seigneur ne demande pas de rompre avec toutes ces catégories du monde. Le monde, c'est le monde de l'iniquité. Bon, mais si on veut se séparer d'eux, alors on va sortir du monde, et par conséquent, on ne va plus y apporter le témoignage, on ne va plus y apporter l'évangile. Donc, on ne peut pas, il faut ne pas appartenir au monde, mais il faut nécessairement rester dans le monde, c'est-à-dire au milieu des impudiques, des cupides, des ravisseurs, des idolâtres. Voyez-vous, nous sommes par conséquent, nous aussi, dans un milieu de ténèbres, et c'est là que nous apportons, autant que nous le pouvons, la lumière de l'évangile. Ensuite, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Nous n'avons pas à juger ceux du dehors, c'est pas notre affaire. N'est-ce pas ceux du dedans, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'Église, ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors là, vous voyez, Paul montrera que c'est sans faiblesse absolument qu'il faut juger au-dedans de l'Église et ôter le méchant si cela est nécessaire. Voilà la seule chose que on pouvait dire sur Jéhu. C'est pas la peine de s'attarder. Il fallait que cette histoire nous figure dans la Bible. Elle intéresse une partie d'Israël. Mais enfin, elle est très sombre, évidemment.
Jéhu, deuxième livre des Rois, chapitre 10, verset 20.
Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Première chose. Deuxième chose, 30 et 31 dans le même chapitre. Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Voilà. Nous dirons tout de suite de ce personnage-là ce que j'ai déjà dit d'une manière générale, c'est-à-dire que Dieu donne à un peuple le conducteur qui est en rapport avec lui, avec son état moral, spirituel. Si l'état est mauvais, il ne peut pas lui donner un conducteur meilleur que lui. Alors, il lui donne donc le conducteur qu'il peut. Ici, Dieu aurait tout simplement pu faire disparaître le royaume des 10 tribus, c'est-à-dire Israël, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, des 10 tribus, qui s'était livré à Baal, qui avait eu cette Akab abominable avec Jézabel pour monarque. Il aurait pu tout sacrifier, mais Dieu veut encore le conserver. Voilà, c'est la seule chose que nous pouvons comprendre de la pensée de Dieu. Il veut encore le conserver. Alors, il va livrer Akab et toute sa maison, puis tous les prophètes de Baal, à un homme qui ne vaut pas mieux, mais qui va au moins accomplir la volonté de Dieu en ce qu'il accomplira le jugement, son jugement sur la maison d'Akab et sur les Baals. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut voir. Jéhu est un homme habile, ambitieux, sanguinaire, sans scrupules. C'est évident. Il met fin au culte de Baal par une ruse de la plus grande perfidie. Enfin, on dira, évidemment, il fallait le faire. L'Éternel le récompense, mais seulement d'avoir exécuté sa volonté à l'égard de la maison d'Akab. La maison d'Akab, vraiment, avait été abominable aux yeux de Dieu, et toute la maison d'Akab était sous le coup du jugement. Et l'exécuteur du jugement, c'est ce Jéhu. Il fallait sans doute un homme de cette trempe pour exécuter le jugement de Dieu sur un si grand nombre de personnes et dans une situation aussi compromise qu'elle l'était. Le moral du personnage, donc, n'est pas à prendre en considération, il passe au second plan. C'est un moral qui n'est pas meilleur que celui des gens qu'il tue. La leçon pour nous résulte de ce que cette histoire sanguinaire réaffirme, que l'accomplissement des desseins de Dieu prime beaucoup d'autres choses. Quand Dieu désire continuer, eh bien, il y a certes ces jugements qui interviennent en cours de route, des jugements partiels. Il faut que ces jugements s'accomplissent, mais il veut encore continuer, malgré tout, avec les 10 tribus. Il n'a pas décidé de les abandonner. Dans les situations de la plus noire apostasie, le jugement de Dieu doit tomber impérativement, et ceux qui l'exécutent ne sont pas des anges. À la fin, dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a des anges qui exécutent les jugements. Mais là, ce ne sont pas des anges. Moraliser ne servirait absolument à rien dans ce milieu complexe du royaume des 10 tribus. Ça ne servirait à rien de moraliser. C'est un enchevêtrement de désordre et de passion, la seule chose qui importe à Dieu, c'est de retrouver la ligne à suivre de son plan. Il veut conserver le royaume du Nord. À certaines époques, Dieu punit son peuple en se servant des peuples païens voisins, qui sont des peuples hostiles à Israël, et souvent ces peuples sont eux-mêmes ensuite châtiés. Il y a quelqu'un qui a écrit que lorsque Dieu a châtié son peuple, il brûle ensuite les verges dont il s'est servi. C'est-à-dire qu'il il punit les peuples païens qui, eux, sont venus avec leur hargne contre Israël. Dans les temps actuels, pour le temps actuel, quelle est la modeste réflexion que nous pouvons nous faire sur l'histoire de Jéhu? Eh bien, c'est tout simplement que il existe des situations où il faut trancher sans faiblesse. Ne pas le faire avec faiblesse et laxisme, parce que si on le fait avec faiblesse, on se trouve en état de péché contre Dieu. Et je veux faire allusion surtout à la situation dont parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, mettons. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. » Voyez-vous, voilà déjà quelque chose, une réflexion qui nous fait comprendre bien des choses. Le Seigneur ne demande pas de rompre avec toutes ces catégories du monde. Le monde, c'est le monde de l'iniquité. Bon, mais si on veut se séparer d'eux, alors on va sortir du monde, et par conséquent, on ne va plus y apporter le témoignage, on ne va plus y apporter l'évangile. Donc, on ne peut pas, il faut ne pas appartenir au monde, mais il faut nécessairement rester dans le monde, c'est-à-dire au milieu des impudiques, des cupides, des ravisseurs, des idolâtres. Voyez-vous, nous sommes par conséquent, nous aussi, dans un milieu de ténèbres, et c'est là que nous apportons autant que nous le pouvons, la lumière de l'évangile. Ensuite, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'avons pas à juger ceux du dehors, c'est pas notre affaire. N'est-ce pas ceux du dedans, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'Église, ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors là, vous voyez, Paul montrera que c'est sans faiblesse absolument qu'il faut juger au-dedans de l'Église et ôter le méchant si cela est nécessaire. Voilà la seule chose que on pouvait dire sur Jéhu. C'est pas la peine de s'attarder. Il fallait que cette histoire nous figure dans la Bible. Elle intéresse une partie d'Israël. Mais enfin, elle est très sombre, évidemment.